commencer. Parler de la sainteté de Pierre, après avoir parlé celle de Saint Jean, c'est à la fois merveilleux et difficile. On sait très bien comment beaucoup de pères de l'Église ont discuté pour savoir lequel Jésus aimait plus, Pierre ou Jean. Et réfléchissant sur le rôle particulier de Pierre et de Jean, il précisait, à Pierre il a donné l'Église, à Jean il a donné Marie. Et c'est vrai que ces deux apôtres ont reçu du Christ un don magnifique. Mais cela ne nous fait pas découvrir leur propre sainteté qui est au-delà de ce don. Mais c'est déjà très beau de comparer Pierre et Jean de cette manière. Et beaucoup de pères de l'Église disent à Pierre, il a donné l'Église à Jean, il a donné Marie. Marie, pour le Christ, c'est plus que toute l'Église. Mais d'autre part, je ne peux pas séparer Marie de l'Église. Et donc, en donnant l'Église, il donne Marie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer la sainteté propre de Pierre et la sainteté propre de Jean, c'est-à-dire l'amour particulier de Jésus pour Pierre et l'amour particulier de Jésus pour Jean, simplement en regardant la mission de l'un et de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde l'Évangile, et c'est toujours là où il faut revenir, si on regarde l'Évangile, on voit bien le regard très particulier de Jésus sur Pierre. La vocation de Pierre. Ce passage dans l'Évangile de Saint Jean, qui est si beau. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Et suivit Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». Il l'amena à Jésus. Jésus, le regardant, dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire « Pierre ». C'est très étonnant. Jésus n'a pas changé le nom de Jean. Jésus n'a pas changé le nom d'André. Et voilà que pour Pierre, il change son nom. Tu t'appelais Simon, tu t'appelleras Képhas, Pierre. Et Jésus fera comprendre progressivement durant sa vie apostolique pourquoi il a appelé Pierre Képhas. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voilà toute la grandeur de Pierre. C'est que Jésus, tout de suite, en l'appelant, en l'aimant, lui donne cette mission très particulière d'être celui qui continuera d'exercer l'autorité du Christ sur l'Église de Jésus. Sur les brebis du Christ. Jésus lui donnera cette mission spéciale d'être celui qui doit être, comme Catherine de Sienne disait, le doux vicaire de Jésus. Et c'est vrai de Pierre et de tous les successeurs de Pierre. Et c'est pour cela que la vocation de Pierre est si particulière. On ne peut pas dire ça de Jean. Pierre, de fait, aura une succession apostolique jusqu'aujourd'hui. Notre pape actuel, est le successeur de Pierre. Je ne peux dire ça par rapport à Jean, d'aucun évêque, d'aucun prêtre. Il y a, par rapport à Pierre, une mission toute particulière qu'il doit remplir et qui va se continuer pour que l'Église du Christ soit rattachée d'une manière plus particulière à Jésus, pour que l'autorité paternelle et sacerdotale de Jésus se continue à travers les temps, à travers les lieux. Pierre, c'est celui qui est choisi, qui est apôtre, avec les autres. Et cependant, Jésus a un regard particulier sur lui. Et Jésus va avoir une confiance spéciale sur Pierre. Et cette confiance, j'allais dire, elle est liée au rôle particulier que Pierre devra jouer, même sur les apôtres. Ce passage, qui je crois est très important lorsqu'on cherche à comprendre ce lien particulier de Jésus avec Pierre, c'est dans le chapitre 6 dans Saint Jean, après que Jésus a réalisé la multiplication des pains, que de fait, Jésus est parti tout seul dans le désert pour prier. Les apôtres, ne voyant plus Jésus avec eux, repartent sur Capharnaüm. Et durant la nuit, Jésus les rejoint. C'est très beau ce passage où Jésus rejoint de fait les apôtres durant la nuit lorsqu'ils ont travaillé déjà longuement. Jésus est là, présent, marchant sur la mer. Mais ce n'est pas cela qui est particulier comme lien. C'est un lien avec tous les apôtres, mais particulier avec Pierre. C'est le lendemain, lorsque la foule va rejoindre Jésus à Capharnaüm, et que Jésus va donner ce grand discours sur le pain de vie. Et que, progressivement, tous ceux qui l'avaient suivi avec tant de joie la veille, qui avaient reçu de lui ce pain miraculeux, ces poissons, vont, de fait, s'éloigner de lui, d'abord intérieurement. Dans leur cœur, ils ne sont plus d'accord avec ce que Jésus dit. Les paroles de Jésus leur paraissent trop dures. Lorsque Jésus annonce prophétiquement que le véritable pain qu'il donnera comme nourriture, c'est sa chair. Et que la boisson qu'il donnera, c'est son sang. Cette parole si forte effarouche ses disciples. Ils s'écartent, ils s'en vont. Cette parole est trop dure. Et devant ce premier départ, cette première séparation qui existe au sein des disciples de Jésus, en prenant disciples au sens très large, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui l'aiment quand même, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont découvert en Jésus comme un chef religieux, peut-être plus attaché au miracle, au signe que fait Jésus, qu'à la personne du Christ. Ça, c'est vrai. Je crois que tous ceux qui partent de cette façon, c'est parce que ils n'ont pas découvert la personne de Jésus. Ils le suivent à cause de ses miracles. Ce qui est sûr, c'est que devant ce départ, Jésus se retourne vers ses disciples et il leur demande si eux sont capables eux aussi de partir. Voici ce que Jésus leur dit. Jésus dit donc aux 12, est-ce que vous aussi, vous voudriez partir? Et c'est à ce moment-là où Simon-Pierre prend la parole. Il semble en toute hâte, ayant peut-être un peu peur, que parmi les disciples, il y en a qui commencent à discuter. Ce qui est sûr, c'est que Simon répond, « Seigneur, vers qui irions-nous ? » Il s'adresse à la personne de Jésus. C'est une nouvelle rencontre avec Jésus. La première avait été très belle, mais dans le silence. Pierre est silencieux. Il ne dit pas grand-chose, c'est pas un intellectuel. C'est pas non plus un affectif. C'est un homme très généreux, un réalisateur. Et lorsqu'il voit ses disciples qui s'en vont, après cette journée de marche et cette soirée qui avait été si joyeuse, lorsque Jésus a multiplié les pains, Simon-Pierre n'hésite pas. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour nous, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi, le Saint de Dieu. Profession de foi de Pierre. Au nom des 12. Et Jésus fait tout de suite comprendre que Pierre dit cela et que tous ne sont pas comme Pierre. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. Au moment du choix, les 12 sont unis dans le choix du Christ. Ici, il faut aller plus loin. Il faut répondre à Jésus et répondre à un enseignement de Jésus, enseignement prophétique, un enseignement ultime dans l'ordre de l'amour, puisqu'il annonce que Jésus donnera sa chair en nourriture et son sang en breuvage. Ils ne peuvent pas deviner, c'est impossible, Jésus sait ce qu'il fera, mais eux ne savent pas. Il faut qu'ils acceptent cela dans une foi toute pure, toute nue, dans une totale confiance à Jésus. Pierre le fait, ça c'est la grande générosité de Pierre. Au milieu des 12, Jésus, qui sonde les reins et les cœurs, annonce, il y a un diable, un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer. Lui, l'un d'entre les 12. Jésus ne dit pas à Pierre, qui est celui qui n'est pas à l'unisson de cette foi dans la parole de Jésus, dans cette espérance et dans cet amour à son égard. Je crois que Pierre, s'il avait su qui était celui dont parlait Jésus, l'aurait écarté. Jésus ne dit rien et supporte la présence de celui qui refuse l'amour dans toutes ses exigences. Je crois que cette profession de foi lie le cœur de Pierre au cœur de Jésus d'une manière toute particulière. Un autre passage qui, je crois, est très révélateur aussi de ces liens de Pierre et de Jésus, c'est au terme de la vie apostolique de Jésus, au lavement des pieds. On connaît tous ce passage. Quand Jésus, sachant que le lendemain, il mourrait, il offrirait sa vie, Jésus veut passer une dernière soirée avec ses apôtres, seul avec eux. Il veut anticiper la Pâque pour la prendre encore avec les apôtres. Et avant d'instituer l'Eucharistie, Jésus, sans avertir, quitte sa robe sans couture, il se revêt du tablier du serviteur de l'esclave. Il se met à laver les pieds de chacun de ses disciples. Il commence tout de suite par Pierre. Il vient donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds. » Simon-Pierre est scandalisé de voir que Jésus, qui vient de présider cette Pâque traditionnelle, comme celui qui est le Seigneur, celui qui a autorité. Voilà que soudainement, il fait le geste de l'esclave. Il vient auprès de Pierre, s'humilier en face de lui, et Pierre ne peut pas accepter cela. Pierre a un sens de l'autorité très grand. Il a bien compris le lien qu'il avait avec Jésus. Il a bien compris que Jésus le regardait comme celui sur lequel on pouvait compter et fonder l'Église. Pierre, choisi par Jésus à cause de sa générosité dans le don de son cœur, à cause de sa fidélité, à cause aussi du sens de son autorité, du sens de l'autorité qu'il a, Pierre ne peut pas accepter cela. C'est impossible. Alors Jésus est obligé de le corriger. Ce que moi je fais, toi tu ne le sais pas à présent, mais tu comprendras dans la suite. C'est pas suffisant. Pierre ne peut pas accepter ce geste de Jésus qui, pour lui, le déshonore. Ce n'est pas un geste qui est digne de lui. Et Jésus est obligé d'expliquer « Non, jamais tu ne me laveras. » C'est Pierre qui à ce moment-là crie « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point part avec moi. » Alors il est désarmé. Et il accepte dans sa générosité. Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, et Jésus est obligé de le remettre dans une attitude plus simple. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est pur, tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. De nouveau, Jésus indique que si s'il fait ce geste, c'est bien pour Pierre, oui, c'est pour Pierre, c'est bien pour chacun des apôtres, c'est bien pour Jean, c'est bien pour Jacques, mais avant tout, c'est pour celui qui n'est pas pur, c'est pour celui qui, depuis que Jésus a annoncé le mystère de l'Eucharistie, le mystère de sa chair qui est donnée en nourriture, celui qui a refusé, Jésus a dit qu'il était un démon, il est toujours là. Et Jésus fait ce geste de lavant des pieds pour lui. C'est le bon pasteur qui veut rejoindre la brebis perdue. Il veut faire ce geste d'humilité, de petitesse, pour toucher son cœur, alors qu'il est déjà décidé de le trahir. Si Simon Pierre n'accepte pas ce geste de Jésus, ce geste du lavement des pieds, s'il l'accepte en dernier lieu parce que Jésus insiste fortement, c'est quand même très significatif. C'est que Jésus veut lui donner un sens nouveau de l'autorité. Simon Pierre a le sens de l'autorité de l'ancienne alliance. Et Jésus veut lui donner le sens de l'autorité que lui-même vient apporter. Une autorité paternelle liée à son sacerdoce. Jésus montre, à titre d'exemple, ce que tous ceux qui doivent exercer l'autorité dans son Église devront faire, devront être plus serviteurs que tous, ayant une autorité qu'ils devront exercer sur leurs propres frères. Il y a là quelque chose de très grand. Et Pierre devra entrer dans cet exercice nouveau de l'autorité, dans la pauvreté et l'humilité. Une autorité toute de service. C'est merveilleux de voir cela, comment Jésus éduque Pierre avant de lui dire qu'il devra faire paître les brebis de Jésus. Jésus nous fait comprendre comment il ne peut pas y avoir d'opposition entre le maître et l'esclave. Si on se place dans une perspective d'amour, c'est celui qui est le maître qui doit aimer plus que tous les autres, être plus serviteur que tous les autres, aller plus loin dans le service et faire le geste de l'esclave. Pierre intervient encore après la scène, après l'institution de l'Eucharistie, lorsque Jésus annonce de nouveau qu'il y en a un qui va le trahir. Et Simon, Pierre, n'ose pas interroger directement Jésus. C'est du reste très étonnant, cela. Jean est tout proche. C'est là où on voit la coopération de Jean et de Pierre, et c'est très beau. Simon-Pierre demande à Jean d'interroger Jésus. Il le peut, étant donné qu'il est tout proche de lui, tout proche de son cœur. Et Jésus répond pour Jean, et non pas pour Simon-Pierre. Parce que Jésus sait très bien que si Simon-Pierre savait que Judas était le traître, il l'exclurait d'une façon violente. Et Jésus ne veut pas cela. Jésus veut aller jusqu'au bout de son don. Et lorsqu'il est arrêté, après le grand mystère de l'agonie, lorsqu'il est arrêté par Judas lui-même, aidé de sa cohorte, aidé des soldats, tous, sauf Jean et Pierre, s'en vont. Ils ont tellement peur d'être pris. Et là, on voit bien la générosité de Pierre et la générosité de Jean. Il serait intéressant, du reste, de voir le caractère différent de ces deux générosités, cette générosité toute affective de Jean, lié au cœur de Jésus, ou d'une affectivité très noble et très grande, d'une affectivité divine. Mais c'est son cœur qui est pris par le cœur de Jésus. Pierre, c'est parce qu'il a donné sa parole. Il va aller jusqu'au bout, comme serviteur. Il a pris le glaive, il a même, au moment de l'arrestation, fait ce geste de violence. Il a tranché un petit bout de d'oreille d'un de ceux qui étaient là. Et Jésus lui a commandé de remettre le glaive dans le fourreau. Mais c'est significatif de voir cette générosité de Pierre qui n'hésite pas. À ce moment-là, Pierre est prêt à donner sa vie. Et il l'aurait donnée si on l'avait attaqué d'une façon ou d'une autre. Tellement sa générosité est forte. Et c'est cette générosité qui lui permet de suivre Jésus jusqu'au bout. Et alors nous connaissons ce moment terrible où Jésus, emporté par Judas, va être interrogé par les grands prêtres, Anne et Caïphe. Et pendant ce temps, Jean, qui a pu pénétrer, fait signe à Pierre de le suivre. Pierre n'est pas connu dans ce milieu. Et les autres connaissent tout de suite un disciple de Jésus. Tu es Galiléen. C'est la servante qui dit ça. Et soudain, Pierre, si généreux et si fort en face des soldats, en face de ce ricanement de la servante, en face de son interrogation, tu es Galiléen, toi aussi tu es avec lui. Pierre renie par trois fois. Je ne le suis pas. Jésus avait averti Pierre. Et Pierre n'avait pas tenu compte de cet avertissement. Il comptait trop sur sa générosité, sur sa fidélité à lui. C'est vrai, il est d'une très grande fidélité et d'une très grande générosité, mais peut-être encore trop humaine. Et c'est cette purification que Pierre doit connaître à ce moment-là. Une purification qui va très loin, puisque dès qu'il a renié trois fois, il rencontre le regard de Jésus et il se souvient de ce que Jésus a dit, et le coq chante, et Pierre s'en va tout seul, pleurant. Et à cause de ce reniement, Pierre ne sera pas à côté de Jean lorsque Jésus, le lendemain, sera interrogé par Pilate. Lorsque Jésus portera sa croix, lorsque Jésus mourra sur la croix, Pierre, à cause cette fragilité qu'il a connue à ce moment-là, en face du ricanement de la servante, en face de cette insistance. Toi aussi, tu es son disciple, tu es galiléen. Pierre, hargné trois fois. On retrouve Pierre lorsque Marie de Magdala, le matin de Pâques, a été le plus vite possible au sépulcre pour être la première. Marie de Magdala, voyant la pierre rouler, son projet liturgique d'aller auprès du cadavre de Jésus pour embaumer son corps, faire cette liturgie de sépulture qu'on avait été obligé de faire trop vite la veille, l'avant-veille. Marie de Magdala veut la refaire par amour pour Jésus. Et devant la pierre roulée, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Je crois qu'au plus intime de son cœur, elle n'a qu'un seul désir, c'est d'aller auprès de Jean. Lui demander conseil, lui dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque sûrement à la croix, il y a eu un lien très particulier entre ceux qui étaient présents. Quand on vit un grand drame comme celui de la croix, c'est impossible qu'il n'y ait pas un lien très très fort. Et Pierre était absent. Ce sommet de l'humanité sur la terre, le mystère de la croix de Jésus, le mystère de l'offrande de son cœur, de l'offrande de sa vie au Père. Pierre est absent. Jean seul est là. Je crois que Marie de Magdala ne pense pas du tout d'aller auprès de Pierre. D'abord, elle ne sait pas où il est. Elle ne pense qu'à Jean. Elle ne pense qu'à Marie. Ce qui est sûr, c'est que Marie de Magdala va auprès de Jean. Et là, elle rencontre Pierre. Et elle rencontre Jean aussi. Elle leur dit ce qu'elle a vu. Et là, on a cette petite course matinale très très belle. Le matin de Pâques, de Pierre et de Jean. Et comme Jean est plus jeune et qu'il a surtout le cœur beaucoup plus léger, et qu'il connaît où on a mis le cadavre du Christ, Jean devance. Il arrive le premier, mais il respecte Pierre. Ce qui montre ce respect à l'égard de l'autorité de Pierre, reconnu malgré le reniement. Parce que Jean sait très bien ce qui s'est passé. Il était présent. Il respecte Pierre. Il avait compris ce que Jésus avait demandé à Pierre. Il attend que Pierre arrive, il laisse Pierre entrer le premier. Et alors il y a cette description merveilleuse que Jean nous donne dans son évangile. De ce mystère du sépulcre, où, de fait, Pierre entre et constate que le cadavre du Christ n'est plus là, que le linceul est roulé, et que le Saint-Suaire est à côté. Et Pierre a se retire et Jean entre. Et dès que Jean constate ce sanctuaire présent, roulé, Jean croit. À l'écriture, qu'il est vraiment ressuscité. Il y a dû se passer ce moment-là un contact très fort entre le cœur de Jean et Jésus ressuscité. Et Pierre s'en retourne avec Jean. Oh, sûrement que Jean a dû parler à Pierre. Et selon les synoptiques, il y a eu une apparition de Jésus à Pierre, seul. Selon l'évangile de Saint Jean, il y a cette grande dernière apparition, la toute dernière qui est si étonnante, du chapitre 21, où Pierre, après avoir travaillé toute la nuit avec les apôtres, les ayant réunis dans sa propre barque, n'a rien pris. Un travail stérile, pas inutile, mais un travail stérile. Et c'est au petit matin, Jean qui voit sur le rivage quelqu'un. Et Jean, tout de suite, après que Jésus leur avait interrogé en disant: « Enfant, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondent « Non. » Et Jésus leur demande de jeter le filet du côté droit du bateau, et vous trouverez. Et Jean alors découvre que c'est la présence de Jésus. Et Pierre, sur la parole de Jean, Simon Pierre, apprenant que c'est le Seigneur, là c'est Jean qui instruit Pierre. Voyez comme ils sont liés. Aucune rivalité, mais l'un aide l'autre à entrer plus profondément dans l'intimité avec Jésus. C'est le Seigneur, Simon Pierre donc, apprenant que c'est le Seigneur, se noua un vêtement à la ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Encore l'empressement de Pierre, la générosité de Pierre. Dès que Jésus est là, immédiatement, il va vers lui, malgré le reniement, il sait qu'il est pardonné. Il sait que Jésus est le même qu'avant, et qu'il a passé au-dessus de sa faute, de sa fragilité, de sa faiblesse. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après ce petit déjeuner, Jésus regarde Pierre d'une manière toute particulière, et il l'interroge par trois fois. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que cela ?» Il lui dit: « Oui, Seigneur, tu sais, toi, que je t'aime tendrement. » Jésus lui dit: « Fais paître mes agneaux. » Et lui, de nouveau, une seconde fois, et une troisième fois, avec une petite variante sur la troisième fois, qui est intéressante à regarder. Mais si on regarde l'essentiel du message, c'est Jésus qui scrute le cœur de Pierre. Est-ce que le reniement qui est pardonné permet à Pierre d'aller plus loin et d'aimer Jésus selon une modalité, j'allais dire nouvelle, que les autres ne connaissent pas puisqu'ils n'ont pas renié? Jésus se sert de la fragilité de Pierre pour que Pierre l'aime encore plus et comprenne combien il est aimé de Jésus, puisque Jésus se sert de ce reniement pour croire. creuser dans le cœur de pierre une nouvelle capacité d'amour. M'aimes-tu plus que tous les autres? Et quand Jésus dit une troisième fois cela, Pierre commence à hésiter. Il est blessé jusque dans sa générosité. Il sait bien qu'il est fragile, qu'il est faible. Et c'est à ce moment-là où Jésus de nouveau lui dit « Fais paître mes brebis malgré sa faiblesse, malgré sa fragilité. » Jésus, là, établit Pierre pour être son successeur. Il établit par trois fois au nom de la très sainte Trinité. Il établit dans la profondeur de son cœur et dans la fragilité de son cœur généreux. Fais paître mes brebis. Voyez bien la différence. À Marie, Jésus lui dit, femme, voilà ton fils. Et à Jean, il lui dit, voilà ta mère. Ici, il dit à Pierre, fais paître mes brebis. Ce serait important de regarder la différence entre ce mystère de la maternité divine de Marie à l'égard de Jean, à l'égard de l'Église, à l'égard de Pierre. Et cette autorité de Pierre pour gouverner l'Église, il gouverne les brebis du Christ, ce ne sont pas ses brebis, et pourtant c'est bien ses brebis dans la charité fraternelle, ce sont les brebis de Pierre, il les aime avec Jésus, il les prend avec Jésus. Mais son autorité doit regarder les brebis qui sont les brebis du Christ pour les gouverner comme le Christ les gouverne. Ce ne sont pas ses brebis, ce sont celles de Jésus. Et Jésus fait tout de suite comprendre ça à Pierre. Lorsque Pierre va interroger Jésus, après avoir reçu du Christ cette prophétie, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudrais pas. Il dit cela pour signifier par quel genre de mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. Se retournant, Pierre voit venir à lui le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, lors du dîner de la scène, s'était renversé sur sa poitrine et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? Pierre donc, le voyant, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » C'est très étonnant. La première question que Pierre pose sur une des brebis du Christ, une brebis très aimée, Jean, Jésus ne répond pas. Pour bien faire comprendre à Pierre son rôle propre, chacune des brebis demeure unie à Jésus d'une manière unique. Et Pierre est là comme représentant du Christ. Les brebis demeurent les brebis du Christ. Et Pierre est là pour les aider, exercer son autorité, son service d'amour. C'est un service d'amour. Pour leur rappeler tout le temps la présence de Jésus, pour leur rappeler tout le temps l'amour du Christ. Pierre est là pour exercer cette autorité, pour les aider, sans aucun accaparement. Il n'a aucun pouvoir et de droit. Ce sont les brebis du Christ. Mais il a une autorité de service, toute paternelle, toute aimante, pour aider les brebis de Jésus. Il faut bien comprendre comment Pierre va faire ce passage de Jérusalem à Rome. C'est lui qui a eu cette autorité. Et ceci est décrit dans les Actes des Apôtres. Et c'est tellement important. L'axe de l'Église sera Rome. Et c'est là où se réalisera la prophétie de Jésus, où Pierre, à la suite de Jésus, dans une fidélité ultime, donnera sa vie. Il mourra martyr. La générosité de Pierre, qui progressivement est purifiée pour qu'elle puisse aller jusqu'à ce témoignage ultime, le martyr, où il sera le témoin fidèle. Je crois que ce qui caractérise la sainteté de Pierre, c'est bien cette fidélité dans une grande générosité. Et c'est justement cela qui va être corrigé, purifié, au moment où Pierre connaîtra cette faiblesse du reniement. C'est sa générosité qui demande d'être purifiée, parce que ce que Jésus réclame de Pierre, c'est une générosité de celui qui doit aller jusqu'au bout du témoignage, de celui qui doit avoir suffisamment de force pour exercer une autorité sacerdotale à la suite de Jésus. Celui qui doit être suffisamment fort et suffisamment doux pour être entièrement donné au service même des brebis du Christ. Cette générosité qui va jusqu'au martyr est tellement impressionnante quand nous voyons tous les successeurs de Pierre dans le canon de la messe, le premier, où on voit tous ces martyrs successeurs de Pierre. Quand on voit cette continuité dans la générosité, dans le don, même si certains papes, à certaines époques, se sont laissés un tout petit peu prendre par la gloire, et peut-être ont transformé cette autorité en pouvoir. Ce qui est merveilleux pour nous, c'est de voir que notre pape actuel est tellement lié à Jean et à Pierre. C'est peut-être ce qui lui donne son caractère unique, et ce qui nous fait comprendre le sens si profond qu'il a de la paternité. Il est vraiment celui qui continue la mission de Jésus auprès des brebis du Christ. Et s'il a ce sens de la paternité si aigu, si profonde, cette paternité s'exerce dans un service, dans un don de lui-même. Et cette paternité prend toute sa signification quand on sait qu'il est le pape martyr qui a offert toute sa vie par amour pour Jésus, et qu'il est vraiment celui qui, grâce à son amour pour Marie, en ce sens, il continue Jean. Grâce à son amour pour Marie, peut-être tout entier, donné à Jésus comme un tout petit enfant, parce qu'il est le fils bien-aimé de Marie. Il peut être le petit enfant du cœur de Jésus et du Père. Il faut que nous remercions l'Esprit Saint de mettre dans les moments quelquefois si difficiles que nous traversons aujourd'hui, de nous avoir donné tous ces successeurs de Pierre, si grands, si divers et si étonnants dans leur diversité. Pions. Jean 23, Paul 6, Jean-Paul 1er, Jean-Paul 2. Tous ont une taille merveilleuse. Mais je crois que pour nous, celui que nous avons, qui a tel amour de Marie, c'est vraiment pour nous le plus grand. C'est vraiment celui qui nous fait le mieux comprendre ce lien si fort de Jésus et de